Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 2 juillet 1992.
C'est le dernier cours de philosophie première. Il y avait une question qui était posée, auquel n'a pas encore répondu, qui est importante à bien préciser. On dit ordinairement que l'intelligibilité est propriété de l'être, et que l'un est propriété de l'être. Alors, quelle différence entre les deux ? On parle, et saint Thomas le dit, de la ratio veri, comme la propriété de l'être, de ce qui est, de ce qui existe, comme capable de déterminer l'intelligence, donc l'intelligibilité. Alors, quelle différence y a-t-il? Ces deux affirmations, sans les confondre, parce qu'elles sont peut-être source de grandes confusions, très souvent. Autrement dit, il y a un problème. Hier, je vous parlais de ce que représentait le néoplatonisme et comment le néoplatonisme arrive à mettre l'un au-dessus de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, cette séduction de l'un ? Ici, c'est l'influence de l'ontologisme. L'ontologisme, c'est de passer de l'intelligibilité à l'exister. Tout ce qui est rationnel et tout être en tant qu'il est irrationnel. Leibniz. L'ontologisme de Descartes. L'ontologisme de Heidegger. Comment ça se fait qu'il y a cette confusion, on peut dire ça, qui est quelque chose d'extrêmement répandu? Aspects différents. Je crois qu'il y a là un problème très très important et qui touche très fort à la manière dont notre intelligence atteint la réalité. Dans la scolastique, intéressant. en disant que le problème fondamental de la métaphysique, de la philosophie première, c'était le problème de l'un du multiple. Il le considérait comme le problème, alors que nous n'avons pas pris tout à fait cette position-là. Nous avons au contraire essayé de voir comment c'était la découverte de l'être en acte, ce qui me permet de toucher la fin de ce qui est en tant qu'être, qui était ce qui avait d'ultime dans la recherche de la philosophie première, comme découverte. Comment se fait-il que, de fait, on arrive à affirmer que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème par excellence? Scolastique a confondu la sensation, du toucher, de la vision, dépassant les sensations, découvrant la réalité qui existe. Et c'est à cette réalité qui existe auquel je dois tout le temps revenir. Ça va essayer de comprendre. Et l'année prochaine, on le verra encore beaucoup plus. Pour ceux qui seront là, que toute la métaphysique, toutes les formes métaphysiques est entre eux. Le jugement d'existence, ceci est. Et ce jugement d'existence très particulier, je suis. C'est au fond tout le parcours métaphysique pour arriver à comprendre avec force ce qu'est la personne humaine. Je suis. Toute la différence entre l'affirmation « je suis » et qu'est-ce que ça implique. Et puis ceci est. Point de départ de la métaphysique, ceci est. Toutes les réalités qui existent peuvent être un point de départ. Et puis, je suis, c'est la métaphysique qui atteint la réalité la plus noble qu'elle peut atteindre immédiatement, directement, la personne humaine. Je suis. Et pour comprendre la personne humaine, il faut se comprendre. Parce que normalement, je comprends mieux ce ma personne humaine que la personne humaine de mon voisin. Ben, c'est pas commun de connaître la personne humaine de celui qui est à côté de moi. Parce que je le connais à travers le sensible, à travers son corps. Tandis que je me connais de l'intérieur. Et en me connaissant de l'intérieur, j'ai quand même une pénétration beaucoup plus profonde que quand je dis simplement ceci existe. Donner la main à quelqu'un pour s'apercevoir qu'il existe et réfléchir sur cette affirmation qui n'est pas une introspection. Je suis. pas dire ça. Parce que je ne peux même pas dire que le je suis, c'est l'homme. Le je suis était l'homme. Il n'y a que Jean-Jacques. Jean-Jacques qui peut dire ça. Jean-Jacques, le toupet de dire, regardez-moi, je suis l'homme. Alors, après on dit, je suis l'homme, je suis l'être. Oui, la distinction, les deux distinctions qui sont nécessaires à faire. Alors, qu'est-ce que c'est que la critique? La critique réfléchit sur mes opérations de connaissance intellectuelle et sensible et imaginative. Je saisis les rapports qui existent au plus intime de ma connaissance et les degrés de ma connaissance jusqu'au degré suprême, le jugement de sagesse. La critique regarde ce qui est connu, vous voyez, le vécu de mon intelligence. C'est ça qu'on regarde la critique, le vécu de mon intelligence, le vécu de l'intelligence du mathématicien, le vécu de l'intelligence du physicien, le vécu de l'intelligence du philosophe n'est pas le même. Le vécu de l'intelligence de l'ami par rapport à son ami n'est pas le même que le vécu de l'homme prudent, le vécu de l'artiste, du poète n'est pas le même que le vécu du philosophe. La critique étudie ce vécu en cherchant ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans ce vécu. Et vous voyez, par la connaissance affective, la critique regardera nécessairement le vécu affectif, le vécu passionnel. Si j'ai un peu de lucidité, je peux arriver à discerner en moi mon vécu passionnel, imaginatif, romantique et mon vécu volontaire. Je veux aimer spirituellement. Je me laisse aller à ma passion, à mon instinct. Oui, je trouve aussi du côté affectif toute une série de niveaux qui est mon vécu intérieur. La critique demeure dans l'immanence de mon vécu intellectuel et affectif. Et puis les relations entre la philosophie et la science. Mais vous voyez, la critique est beaucoup plus vaste que la critique des sciences. C'est tout mon vécu intérieur. Et ce qui est très important aujourd'hui, face à la phénoménologie, parce qu'il faut répondre à ça, montrer qu'il y a là quelque chose de très intéressant, mais qu'il faut dépasser. Oui. Ce qui est très curieux, c'est que les meilleurs élèves de Husserl ont tous quitté Husserl. C'est intéressant, du reste, à noter au bout d'un certain temps. Merleau-Ponty, Heidegger et Wittgenstein, pour des motifs très différents, ils l'ont tous effacé. En comprenant que c'est une prison dorée. La critique, c'est une prison dorée. Et la critique au point de vue affectif, c'est une prison dorée. Et vous vous emprisonnez dans votre immanence du vécu. Parce que vous avez pour regarder indéfiniment votre vécu. Vous n'arrivez jamais à rejoindre le vécu de votre voisin. Alors, nécessairement, on s'attrape mutuellement. C'est mon sincérité. Et toi, c'est ton vécu, c'est ta sincérité. Et on s'oppose. Si on est tout à fait au même niveau, si c'est ainsi que lui, on se rencontre toujours à la même heure. Et quelquefois aussi, on ne se rencontre jamais. C'est pas étonnant. On fait le même parcours tous les jours, mais pas à la même heure. Alors on se rencontre jamais. Et c'est le vécu des deux. C'est très simple à comprendre ça, avec un peu de bon sens. Et quand on est replié sur le vécu, à la manière du seul, c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Parce que pour le fémologue, le grand problème, c'est la rencontre de l'autre. Pour Lévinas, c'était le problème de toute sa vie. Comment découvrir l'autre ? À partir de votre vécu, comment découvrir l'autre ? Et c'est très significatif, ça. Et ça, c'est très intéressant à voir. Alors que dans un réalisme, l'autre, mais je le découvre tout de suite. Regardez le gosse. Il découvre tout de suite l'altérité qu'il a avec son père. Avec sa mère, c'est quelquefois plus difficile. Mais avec son père, il découvre tout de suite. Parce qu'il n'est pas l'autorité. Alors il s'oppose très vite. Avec ses jouets, l'autre. La critique regarde le vécu et essaie de saisir ce qu'il y a de tout à fait premier dans le vécu, l'élément. C'est pour ça qu'il découvre la différence, la critique, entre l'appréhension et le jugement. Nous avons vu ça. Je vous ai dit, distinction capitale. L'appréhension et le jugement. Je connais des qualités et je regarde la réalité. Je connais toutes les déterminations, les prédicaments, c'est de l'ordre de l'appréhension. Ça implique bien le jugement. Dans la substance première, autrement c'est toutes les appréhensions, tous les niveaux d'appréhension, qualité, quantité, relation. L'appréhension implique une connaissance intellectuelle dont le fruit est un concept. Alors le concept saisit l'intelligibilité de la réalité. Le concept saisit bien l'intelligibilité de la réalité. Ce que Aristote appelle le toti eneinain, ce que le latin a traduit quiditas et le français quidité. Et ce mot quidité a fait fortune. Puisque même Sartre l'emploie. C'est extraordinaire, ça. Depuis Aristote à Sartre, vous retrouvez ce mot quidité à travers tout. On ne sait plus très bien ce que c'est. On a complètement oublié l'origine d'Oti Eneinain. Quod quid erat esse. C'est un peu trop long, alors on a raccourci. Toujours comme ça, mais le petit mot familial, quidité. Et c'est ça qui est resté. Alors qu'est-ce que c'est que la quidité ? C'est la saisie de l'intelligibilité de ce qui est. C'est la saisie de l'intelligibilité de ce qui est. C'est l'intelligibilité fondamentale, première. Cette intelligibilité fondamentale, première, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aspect générique, le genre. Le genre contient animal que raisonnable. Quand vous avez une collectivité d'hommes, quand vous avez des mouvements de masse avec des gros camions, il faut la grève. C'est difficile de faire entendre quelque chose. Vous voyez, c'est curieux. Hein, l'animal s'additionne et le raisonnable différencie. Alors quand vous avez une collectivité, une quantité, une grosse quantité, le genre s'apesantit. Chez l'homme que de voir un mouvement de masse. Tandis qu'en voyez un homme particulier face à vous, vous découvrez tout de suite le rationnel. Ce n'est pas bête. Aux examens, quelquefois, on a de la peine à faire sortir le rationnel. Tandis que l'animal baille. C'est le rationnel et le générique. Bon, vous découvrez là l'aspect quantitatif. Et l'aspect quantitatif, c'est tout simplement l'intelligibilité essentielle. C'est l'intelligibilité essentielle. Ce qu'Aristote appelle le katoto. Le katoto, c'est l'intelligibilité essentielle. C'est ce qu'on touche fondamentalement ou ce qu'on touche dans la différence. Voyez bien que c'est le registre premier de ma connaissance. Genre et différence spécifique. Je suis là en logique. Et c'est ce que la plupart du temps on retient, ça. Genre et différence spécifique. On croit définir l'homme philosophiquement en disant animal raisonnable, alors que c'est de la logique pure. C'est de la logique pure. Et je suis au niveau de l'intelligibilité. Et je suis enfermé dans l'intelligibilité. Et au point de vue critique, là, je suis tout à fait à l'aise. Bon. Il y a un premier niveau d'intelligibilité à ce niveau-là. C'est le niveau univoque. Si je fais un peu de philosophie, je découvre un autre niveau d'intelligibilité, tout à fait différent. C'est le niveau analogique. Que je découvre à partir de la saisie des principes propres de la philosophie. Dès que je découvre ce que c'est que l'âme, dès que je découvre ce que c'est que l'ousia, la substance, ce que c'est que l'être en acte, je suis au-delà de la quiétude générique et spécifique, et je saisis ce qu'on appelle les rationes, raison d'être, la raison de vie. Qui ne sont plus les notions analogiques, qui ne sont plus les notions quantitatives, univoques, mais analogiques. Et l'analogie implique ratio et mode. Il y a division encore, raison et mode. Là, genre et différence spécifique. Qui divise, genre et différence spécifique, divise l'universel, univoque. La division se retrouve des deux côtés. Lorsque je suis au niveau des rationes analogiques, j'ai comme division ratio division est un procédé fondamental de l'intelligence. Vous retrouvez la division au niveau connaissance univoque, connaissance analogique et dialectique. C'est quand même intéressant. Le fondement de la dialectique, c'est la division. Le fondement de la connaissance univoque et de la définition, c'est la division. Vous définissez en dépassant la division. Et toute votre connaissance analogique se fonde sur la division. Vous avez donc trois types de division. C'est important, on divise l'universel. Univoque et l'universel analogique. Et ces deux divisions sont tout à fait différentes. L'une est quantitative par l'aspect de la potentialité. Disons, division de l'aspect potentiel et l'autre est qualitative. Et la dialectique, c'est encore un autre type de division. Je crois qu'il faut faire la synthèse des deux. La dialectique, c'est la synthèse de ces deux types de division. Univoque et analogique. Vous voyez, on touche là quelque chose de très très fondamental. Et je suis toujours dans l'ordre de l'intelligibilité. La dialectique est au niveau de l'intelligibilité. La réalité n'est pas dialectique. C'est Monod qui dit ça. Il a dit une chose intelligente. Monod dit la réalité n'est pas dialectique. C'est très curieux. Chez lui, il y a beaucoup d'autres confusions, mais là, il a dit quelque chose de juste. C'est l'intelligibilité, c'est mon intelligibilité qui est dialectique. C'est mon esprit rationnel qui est dialectique. Alors, si vous comprenez, tout cela est de l'ordre de l'appréhension. J'assimile. La dialectique n'est pas uniquement de l'ordre de l'appréhension, mais c'est deux divisions. Ces deux divisions sont de l'ordre de l'appréhension. Un, deux, c'est l'appréhension. L'appréhension, c'est l'opération élémentaire, fondamentale de ma vie de l'esprit. Le jugement, dans ce qu'il a de premier, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Ceci n'est pas. Vous avez un nouveau type de division qui est source de l'opposition de contradiction. Ceci est. Ceci n'est pas. Cette division est tout autre. Mais c'est encore une division. C'est même la division la plus radicale. C'est une division qui dépasse l'intelligibilité et qui atteint la réalité existante. Je m'oppose à la réalité existante en disant ceci n'est pas. Et je divise à partir de la réalité existante. Ceci n'est pas. Et c'est l'intelligence qui est capable de nier. Cette capacité de l'intelligence de nier quelque chose de fondamental. Je crois que c'est cela que met en pleine lumière la modernité. Qui met la négation avant l'affirmation. Et en mettant la négation avant l'affirmation, elle met en pleine lumière ce qu'est la négation. À partir de là, vous commencez à comprendre. L'intelligibilité, c'est le domaine de l'appréhension. Dès que j'atteins la réalité par le jugement, ceci est. C'est la réalité existante qui est première. Ce n'est plus l'intelligibilité. je juge, dès qu'il y a le jugement d'existence, ce qui est premier, c'est la réalité qui existe. Alors, je commence à voir que la propriété de la réalité qui existe, c'est l'un. La propriété, j'allais dire, ce n'est plus la propriété. En réalité, ce qui constitue le vécu de ma vie intellectuelle, c'est l'intelligibilité. Alors, qui est bien propriété de l'être, en ce sens que cette intelligibilité vient de l'être, elle s'enracine dans l'être, et elle est ce que je suis capable d'assimiler. Qu'est-ce que j'assimile dans ma vie intellectuelle? Qu'est-ce que je saisis dans ma vie intellectuelle? L'intelligibilité de la réalité. Je n'assimile jamais la réalité dans son existé. Son existé, je le respecte. Je respecte l'intelligibilité du petit caillou. Le petit caillou existe. Je ne le mange pas. Intellectuellement, je le respecte. Il est autre que moi. Et parce qu'il est autre que moi, je le respecte. C'est le premier respect. Je marche dessus, mais je le respecte en marchant dessus. Parce que je dis, il me résiste. Et je respecte ceux qui me résistent. Hein, c'est curieux, ça. L'exister, c'est quelque chose que je n'assimile pas. J'y adhère. La réalité existante est antérieure à ma pensée. Tandis que si je fais de l'appréhension, le tout de ma connaissance, ce que la scolastique décadente a fait, la scolastique décadente a amplifié, c'est le cancer de l'appréhension. C'est l'appréhension qui a tout pris. Avec Occam, c'est net. Le jugement ajoute quelque chose. Et puis c'est tout. Le jugement, c'est la dyade. Et l'appréhension, c'est l'un. Et l'un est antérieur à la dyade. Ceci à partir d'Occam. Et c'est à partir de là que la scolastique s'est désagrégée. Puisque l'appréhension est tout. Ce qui est intelligé, c'est l'être. Suarez, qu'on aime beaucoup, Suarez commence la métaphysique, les méditations métaphysiques. Il commence la métaphysique par le concept d'être, en disant que le concept d'être est fini et infini. La division dans le concept d'être et toute la métaphysique de Suarez dépend de ça. C'est devant ça que Heidegger prend la grosse artillerie et dit pas de concept d'être. Faut bien comprendre quand Heidegger dit ça, pas de concept d'être, parce que justement ce concept d'être fini et infini, c'est toute la métaphysique de Wolf. C'est toute la métaphysique, la scolastique, dite thomiste, qui n'est pas du tout la réalité, une philosophie réaliste, qui est tout simplement une philosophie de l'intelligibilité. C'est pour ça qu'on a dit que Leibniz, c'est le dernier grand scolastique. C'est l'intelligibilité qui domine. C'est l'intelligibilité qui est l'être. Tout ce que je... C'est à partir de ce que je connais que je projette la réalité. Alors vous voyez, la dialectique marxiste, c'est assez proche. La seule différence, c'est que l'une prend la forme et l'autre la matière. C'est le même procédé. On n'est plus devant la réalité. On est devant un mouvement de l'esprit qui va toujours plus loin. Un réseau d'intelligibilité. Alors comprenez ça c'est très important. Comprenez bien comment l'appréhension. Qu'au niveau critique, je découvre comme l'élément, je dis bien l'élément premier, fondamental de toute ma vie intellectuelle. Tout le temps, j'appréhende. C'est l'élément. Mais ce n'est pas une opération indépendante du jugement. Mon intelligence s'éveille dans le jugement et dans le jugement d'existence. Ceci est. Tous les matins, vous faites ce petit réveil. Quand vous êtes endormi, vous êtes dans une immanence reposante. Rien n'est plus reposant que d'être dans une immanence absolue. Il n'y a personne, c'est moi. Et je ronfle. C'est mon immanence reposante. Dès que je m'éveille, ah, c'est l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire l'heure? Vous n'avez pas votre monde dans votre coffre intérieur. Vous dites, c'est l'heure. L'heure, c'est un regard extérieur. C'est l'autre. Et vous regardez votre réveil. Tiens, il a sonné à l'heure. Et c'était pas du tout votre heure intérieure. Intérieurement, vous auriez bien encore continué un certain temps avant d'avoir un réveil normal et non pas artificiel. C'est agaçant un réveil artificiel. On en a par-dessus la tête. On voudrait dormir son plein. Mais si on avait dormi son plein, l'heure du réveil, pour les plus généreux, 8h15. Pour les moins généreux, 11h30. C'est vrai, c'est le rythme intérieur. Et maintenant, vous voyez, je prends ça comme exemple. Symboliquement, c'est la philosophie de l'ontologisme. C'est la sincérité. Ma sincérité consiste à me réveiller quand je me réveille naturellement. Ça, c'est un réveil sincère. Le réveil de la montre. Oh, respectez le règlement. Alors, si je regarde uniquement le règlement, c'est effrayant. Si je me dis, ah, c'est pour aller prier. Alors, vous avez la finalité de ce réveil. À ce moment-là, vous avez la vérité. Vous sortez de la sincérité et vous avez la vérité. C'est votre jugement d'existence. Alors, vous voyez la différence. Ce passage de l'appréhension au jugement. L'appréhension, je suis dans mon monde d'intelligibilité. Et la plupart du temps, je reste dans ce monde univoque. Univoque. Parce que pour entrer dans le monde de l'analogie, il faut le jugement d'existence. Et c'est pour ça que quand je suis dans l'immanence pure, je demeure uniquement dans ce que mon intelligence atteint. Et j'arrive à confondre la conclusion scientifique avec la réalité. La conclusion scientifique dit quelque chose de la réalité, mais ne dit pas la réalité. Donc vous voyez, quand je dis que l'intelligibilité est propriété de l'être, attention. L'intelligibilité, c'est l'être face à mon intelligence qui saisit la réalité, quelque chose, l'acuité. Aristote a inventé le mot acuité pour montrer toute la distance qui existe entre la réalité existante et ce que je connais de la réalité. Je connais l'acuité. Je ne connais pas la réalité telle qu'elle est. Quand j'appréhende, j'appréhende l'acuité. C'est pas si mal d'avoir inventé ce mot, vous voyez, pour montrer la distance qui existe entre ce que je cette réalité qui est au-delà de ce que j'ai assimilé de cette réalité. Et j'ai le jugement d'existence. Et je saisis à ce moment-là la réalité qui existe. Alors, je reviens à la question posée. L'intelligibilité, propriété de l'être, c'est pas tout à fait juste. L'intelligibilité, c'est ce que j'atteins de la réalité existante. C'est le bois qui saisit de la réalité ce qui est intelligible, ce qu'elle est capable de connaître. Et je me sers d'instruments pour connaître de plus en plus cette réalité. Même si j'ai un microscope électronique, je ne saisirai pas la réalité existante. Jamais. J'appréhenderai de plus en plus. Indivisible, de plus en plus complexe. Et je pénétrerai de plus en plus dans cette réalité, mais pas dans l'existé de cette réalité. Je pénétrerai dans son intelligibilité. De plus en plus abstraite, de plus en plus abstraite. Quand je me sers d'un microscope électronique, l'abstraction est encore beaucoup plus grande que quand je saisis le genre de la réalité. Mais je l'oublie. Je crois que c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Ce que vous voyez de la réalité est un aspect de la réalité. Et ce n'est pas la réalité telle qu'elle est. Pour cela, il faut dépasser l'appréhension et revenir au jugement. Dans le jugement, ceci existe. Je reconnais que la réalité est plus riche et plus fondamentale que ce que je saisis de la réalité. C'est propre de la métaphysique de découvrir la distance qui existe entre la réalité existante et ce que je saisis de la réalité. C'est dans ce sens-là que la métaphysique est si importante pour lutter contre cet ontologisme farouche qui me fait croire toujours que ce que je saisis de la réalité, c'est la réalité totale. C'est quelque chose de la réalité. C'est quelque chose. C'est son genre, sa différence spécifique, c'est sa quiddité, ce sont les rationes, et ce n'est pas la réalité existante. La réalité existante, je ne peux pas l'appréhender, elle est au-delà de mon appréhension. Alors à ce moment-là, je peux parler de la propriété de la réalité existante, c'est là. J'espère que vous voyez un tout petit peu la différence entre l'intelligibilité, propriété de ce qui est, quand on dit tout le temps, je l'ai dit moi aussi. Mais c'est pas vrai. C'est pas la propriété. Vous voyez comment l'ontologisme a gagné à l'intérieur du thomisme la scolastique décadente. Et Heidegger, et c'est le mérite de Heidegger, a été déclaré farouche contre ça. Il a raison. Il a raison. Il a dit, il n'y a pas de concept d'être. Il n'y a pas de concept d'être dans le sens de l'ontologisme. Tout à fait d'accord. Mais il y a un concept d'être analogique, pas univoque, analogique, qui me donne non pas du tout un décalque de l'être, de ce qui existe, et qui me fait saisir ce qu'il y a de plus radical. L'intelligibilité première de la réalité existante. Mais je demeure dans l'intelligibilité, la rationalité. C'est le fondement de toute ma métaphysique. L'être est par lui-même intelligible. Oui, c'est pour ça qu'on dira propriété. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est l'être face à mon intelligence. Alors, bien dans la réalité existante. Mais la réalité existante est plus que ce que je saisis de la réalité. Ce qui me maintient toujours dans l'humilité. Donc, je ne peux pas passer de l'intelligibilité à la réalité directement. Je dois passer par le jugement d'existence pour voir que l'un est propriété de l'être.
Quand on dit que le vrai est modalité d'être en acte,
que
le vrai est modalité d'être en acte,
oui.
Il ne faut pas mettre aussi un bémol, le même bémol ici.
Non, parce que quand je dis, voyez, je suis au niveau de l'intelligibilité analogique radicale, alors je peux dire que le vrai est une modalité de l'acte. Parce que le vrai est premièrement la réalité en tant qu'elle est intelligible. C'est pas la vérité que je possède en moi. La vérité formelle que je possède en moi,